Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte.
En 2015, à Nieul-sur-Mer, près de La Rochelle, Marie-Josée, 71 ans, et sa fille Elisabeth, 47 ans, fomentent un plan redoutable. Mettre le feu à leur maison et emporter dans l'incendie toute la famille, y compris le frère d'Elisabeth, Marc, et y compris aussi sa fille Elsa, 2 ans et demi. Mais leur plan échoue. La mère, la fille et la petite fille sont sauvées par les pompiers. Seul le frère, Marc, meurt asphyxié par les émanations de monoxyde de carbone. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction d'Elisabeth Silva et de sa mère, Marie-Josée Marquet.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelatte raconte. Côte B sur Europe 1.
Le 21 novembre 2015, les pompiers de La Rochelle reçoivent un appel affolé.
Venez vite chez les Silva. Il y a le feu. Des flammes énormes.
Les pompiers défoncent une fenêtre et ils découvrent 2 femmes, une enfant et un homme inanimé. La scène est étrange, un frigo bloque la porte d'entrée pour empêcher toute intrusion. Et l'appartement sent le white spirit. Le mort s'appelle Marc Silva. C'est un ancien policier de l'OCRB, l'Antigan. Il est mort asphyxié par la fumée. Sa mère Marie-Josée, sa sœur Elisabeth et sa nièce Elsa, 2 ans et demi, sont sauvées par les pompiers. Les gendarmes comprennent que l'incendie était intentionnel. La famille Silva avait élaboré un scénario complètement fou. Un suicide collectif. Madame Silva, vous êtes la maman d'Elsa. Comment est-ce que vous avez pu imaginer un tel scénario? Pourquoi est-ce que vous avez voulu tous vous suicider? Monsieur, je vous le dis, mais personne ne me croit. Mon ex-mari l'a abusé sexuellement de ma fille, j'en suis certaine. Je l'ai dit à la juge, mais elle m'a pas cru. Elle a même laissé à mon mari le droit de voir Elsa. C'est criminel de sa part. Alors que j'étais à bout, et avec ma mère et mon frère, on a pensé que pour sauver Elsa, ben le mieux c'était de tous rejoindre le Seigneur. Tous.
Il s'agit d'une rupture conflictuelle entre une femme et son compagnon.
Docteur Paul Bonan, expert psychiatre.
Ils sont parents d'une petite fille. Et progressivement, cette femme va imaginer, avec des interprétations, avec des intuitions, en voyant sa fille dans certains moments, notamment quand elle revient de la garde de chez son père, une fille qui aurait des comportements qu'on peut qualifier pratiquement de sexuels, c'est-à-dire une enfant qui finalement aurait par moments, avec ses mains, des gestes pouvant être associés à une dimension de masturbation au niveau vaginal. Et de là, s'élabore qu'au cours des contacts et des relations qu'elle peut avoir avec son père au moment des droits de visite et de garde, que son père puisse être incestueux. Ça, c'est le postulat de départ de la mère de l'enfant. Dans le dossier, il n'y a rien en faveur d'une telle appréciation, si bien que malgré les requêtes auprès du juge des enfants, l'enfant continue à être régulièrement confié au père. Donc, il n'y a rien dans le dossier qui peut démontrer que ce que la mère a dans sa tête par rapport à ce qu'elle dit voir de la, du comportement de sa fille puisse correspondre à quelque chose qui pourrait être répréhensible avec une relation de type incestueuse de la part du père, c'est-à-dire de l'ex-compagnon.
Code B13, expertise psychiatrique des docteurs Masson et Bonan. Elisabeth Silva argumente que son ex-compagnon frappait sa fille. Elle ajoute « Ma fille a subi des abus sexuels, elle se dénudait, elle enfonçait ses quatre doigts au fond de la gorge, elle s'introduisait des doigts dans l'anus. Quand elle revenait d'une visite chez son père, elle était perturbée. »
Je suis persuadé qu'elle va s'auto-convaincre que son époux est quelqu'un de dangereux.
Maître Michel Cocoynac, avocat du père d'Elsa.
Je crois qu'il a le sentiment de vivre avec quelqu'un, qui a la main mise sur la gamine, qui est complètement barré parce qu'elle se raconte une histoire. L'exemple, on en est arrivé à ça, c'est que quand on voit un enfant qui dessine sur un poupon avec un crayon rouge, ça ne veut pas dire que l'enfant est battu par le père. Quand j'ai un enfant qui va dessiner sur des murs avec un crayon noir, ça ne veut pas dire qu'il porte le deuil de quelqu'un. Donc en fait, elle avait des raccourcis. Et ça, c'est le bagage intellectuel de la dame Silva. Elle a fait des études en psychologie, elle se dit percepteur extrasensoriel. Donc en fait, elle a la science infuse. Et dans la manière de se présenter comme victime, elle arrive à convaincre son interlocuteur de ce que ce qu'elle perçoit correspond nécessairement à la vérité. Madame Silva, à l'époque épouse Mistrali, va s'amuser à envoyer une lettre à tous les clients de Monsieur Mistrali avec l'information sur laquelle c'était un pédophile. Ce qui veut dire en fait qu'en plus de ça, elle veut saper sa notoriété, elle veut saper sa réputation et elle veut saper son honneur. Mais je reste persuadé qu'il fallait le tuer socialement.
Elle est convaincue que elle fait l'objet de maléfices de son ex-compagnon et que la justice est de mèche avec son ex-compagnon.
Je me souviens que quand je la vois, dans ses premiers mots, elle me parle beaucoup de sa mère. Je perçois une influence très importante de sa mère.
Maître Alexandre Novion, avocat d'Elisabeth Silva.
Une petite femme menue, au physique agréable, très brune, avec de grands yeux bleus, hein, d'un bleu céruléen, avec une peau mate, et qui parle évidemment entre des crises de larmes, qui est extrêmement déprimée, et qui me parle beaucoup de sa fille, la petite Elsa. Elle s'inquiète de sa fille, elle voudrait avoir des contacts avec sa fille. Elle voudrait pouvoir lui écrire, elle voudrait pouvoir lui parler, elle voudrait pouvoir lui expliquer comment les choses en sont arrivées là. Ce qui est frappant aussi chez cette femme, dans sa détresse, c'est qu'on voit qu'elle, dans sa manière de parler, elle remue des images et des mots en blanc et noir, extrêmement manichéens. Il y a d'un côté les méchants et de l'autre côté les gentils. Sa mère, c'est une sainte de vitrail, hein, telle qu'elle me la présente. Sa fille, c'est un ange, évidemment, ça c'est incontesté. Mais le père de sa fille, c'est un démon, c'est un être diabolique. Elle considère que si les choses en sont arrivées là, et c'est parce que le père d'Elsa est un être dangereux pour l'équilibre de sa fille, et qu'il fallait absolument mettre une distance entre cet homme et sa fille.
Code B10, expertise psychiatrique du docteur Dandelot. Elisabeth Silva a 48 ans. Ses parents se sont séparés quand elle était enfant. Elisabeth Silva avait un frère aîné. Il est décédé lors des faits. Elle l'évoque ainsi. Mon frère était un homme admirable, stable, très généreux. Il a toujours tout donné à sa famille. Il a pris le relais de mon père quand il a laissé toutes ses dettes à la famille. Marc était policier, Il a servi dans une affaire classée secret défense. J'ai reçu le soutien des têtes couronnées. La reine d'Angleterre a été d'un soutien immense.
C'est une famille qui donne l'impression vraiment d'être au bout du voyage, d'être au bout de tout. Ils sont dans un appartement qui est tout proche du presbytère de ce village des Charentes-Maritimes. Ils sont rencognés derrière leur volet. Des voisins diront qu'ils les ont quasiment jamais vus, que les volets étaient toujours fermés, que ces gens avaient l'air de gens qui s'étaient finalement presque séquestrés volontairement. Ils sont à bout de souffle, en quelque sorte. La mère et la fille sont engagées dans un combat éreintant, un combat pour la garde de la petite Elsa, mais surtout un combat plus que pour la garde de la petite, un combat pour que le père n'ait plus aucun rapport, n'ait plus aucune possibilité de contact avec la petite. Le frère a lui aussi une personnalité particulière. C'est un ancien de la police qui a quitté la police dans des conditions très spéciales, puisqu'il a eu le sentiment qu'il était victime d'une sorte de complot, qu'on faisait tout pour l'empêcher de surmonter et d'y arriver dans les enquêtes qui lui étaient confiées. Il a une espèce de volonté de croisade anti-pédophile. Il projette et il reporte pas mal de ses échecs sur le combat que sa sœur mène pour récupérer sa fille, en tout cas pour ne pas donner sa fille au père.
Côte Pétresse, expertise psychiatrique des docteurs Masson et Bonan. La famille Silva fonctionnait apparemment sur un mode pathologique, chacun se laissant imprégner des convictions personnelles et contagieuses, de concert avec les autres membres de la famille.
C'est une cellule dans laquelle les enfants fusionnent énormément avec la mère. La mère est une divinité hein, pour Elisabeth et Marc. On peut même dire que c'est une sorte de gourou en jupon. D'ailleurs, lorsque on va trouver la mère et la fille en partant, je dirais, pour le ciel, on s'apercevra que tout près du canapé sur lequel elle s'était endormie, il y avait une Bible. Elisabeth Silva, lorsqu'elle entend sa mère, et lorsque sa mère parle, je pense depuis sa plus tendre enfance, la voix de sa mère agit sur elle avec une force incroyable. C'est une enfant qui a été élevée dans les cantiques, dans le son des orgues, dans les silènes, dans les vitraux, dans les versets de la Bible. Nous avons des gens, si vous voulez, qui sont sans arrêt en train de penser qu'il y a des forces cachées, des forces de l'au-delà, des mauvais génies, des forces diaboliques, disons-le, qui soufflent impunément sur les événements pour, quelque part, contrecarrer systématiquement leurs désirs. Ce qui fait que nous avons des gens extrêmement complotistes et qu'ils sont dans cette pénombre, dans ce petit logis, comme effectivement conduits avec psychologiquement de véritables mentalités d'assiégés.
Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de Code B dans un deuxième podcast déjà disponible sur votre plateforme. We'll be right back.